Vous écoutez RTL.
Le journal de 6h30 avec vous, Jérôme Florin, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une, cette demande récurrente des syndicats policiers qui risque de rester au placard.
Le rétablissement des peines planchées pour les agresseurs de gardiens de la paix, impossible, rétorque l'Union syndicale des magistrats. Dans l'actualité de ce mercredi également, évidemment, ce nouveau coup de tabac sur la France, la tempête Éléanor a fait trembler la Normandie cette nuit. 49 départements sont en vigilance orange, de la Manche à la Corse. Le cas Emily Koenig, cette djihadiste française arrêtée en Syrie, pourrait bien être jugée en France. Et puis la grande santé des voitures d'occasion, un marché en pleine forme. Vous verrez qu'on n'hésite pas à acheter des modèles très très anciens.
RTL Matin. Et on va donc tout de suite prendre la mesure d'Éléanor.
Cette quatrième tempête de l'hiver arrivée cette nuit par l'ouest. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour.
Vous êtes à Rouen, en Normandie, où ça a soufflé très très fort cette nuit.
Oh, oui, puisqu'au plus fort de la tempête, hein, c'est-à-dire vers 3h du matin, on a tout de même relevé des rafales à 130 km/h au Cap de la Hève. Le Cap de la Hève, c'est au nord du Havre. Hein, 127 au phare de Gadeville, à la pointe du Cotentin. 122 à Dieppe ou encore 109 à Caen. Pour l'instant, pas de gros dégâts à signaler. Hein. Les pompiers nous indiquent n'être sortis que pour des arbres couchés et des fils électriques tombés à terre, mais les autorités restent vigilantes, car si les vents ont quelque peu faibli, ils restent tout de même très forts par endroits, puisqu'il y a une demi-heure à peine, on a encore relevé 106 au Cap de la Hague, et plus de 100 km/h sur la côte d'Albar, des 80-85 km/h ici à Rouen, vous l'entendez certainement derrière moi. Le pont de Normandie reste toujours interdit aux piétons, aux deux roues, aux poids lourds à vide, ou encore aux caravanes et aux camping-cars. Prudence sur les routes. La préfecture de région recommande de rester à l'abri et d'éviter évidemment le bord de mer, de rester très vigilant si vous êtes en bord de Seine également, car des inondations sont redoutées, notamment à Rouen, Duclair et Elbeuf.
Merci Frédéric Veil en direct de Rouen. À Marchienne, près de Lille, la moitié d'un toit d'une église s'est effondrée, il n'y a pas eu de victime. Comme le disait Frédéric, beaucoup d'arbres sont tombés sur les routes, hein, de la Bretagne jusqu'au nord en passant par l'Île-de-France. Des trains sont retardés également par mesure de précaution. Vérifiez bien les horaires avant votre départ.
Et on continue bien sûr à vous accompagner, hein, sur les routes, sur RTL tout au long de la matinée. On en vient à présent aux récentes agressions de policiers qui ont réveillé une vieille revendication des syndicats.
Le rétablissement des peines planchées. Il faut savoir que le nombre d'agressions par arme contre des gardiens de la paix est passé de 430 en 2015 à 687 en 2016. Pour être très précis, ces peines planchées ou peines minimum ont été supprimées il y a 4 ans. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
C'est une demande récurrente, mais elle a peu de chances en réalité d'être satisfaite.
En effet, le débat ressurgit à chaque agression de policiers. Ce que leur syndicat réclame, c'est en fait une peine minimale automatique en cas de violence sur un gardien de la paix. Impossible, rétorque l'Union syndicale des magistrats. La Constitution garantit que chaque peine prononcée est individuelle. La présidente Virginie Duval.
Si on prévoyait des peines planchées sans possibilité d'y déroger, ce serait inconstitutionnel. Donc c'est un faux débat, puisque les peines sont d'ores et déjà aggravées.
Des peines qui, dans le cas de Champigny, prévoient jusqu'à 7 ans de prison pour les agresseurs s'ils devaient être interpellés. Sanctions théoriques, rétorquent les syndicats de policiers, insuffisamment appliquées par les magistrats. Un débat récurrent et très politique, mais qui ne devrait pas provoquer de changement à court terme. Aucune nouvelle loi sur la sécurité n'est en effet prévue à ce stade par le gouvernement.
Merci Thomas Proutot. Au total, 8 policiers, 3 militaires de l'opération Sentinelle et 4 gendarmes ont été blessés le soir du 31.
Elle a 33 ans, c'était sans doute la Française la plus recherchée par les autorités.
Emily Koenig était partie faire le djihad en Syrie en 2012. Elle avait rejoint les rangs de Daesh. Elle a été arrêtée avec ses 3 enfants en bas âge. Elle se trouve aujourd'hui dans un camp kurde en Syrie. Toute la question est de savoir maintenant où elle devra être jugée et par qui, Brice Dugénie.
Oui, pour l'Irak, Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, la France fait confiance au système judiciaire irakien, donc les Français arrêtés là-bas seront jugés à Bagdad. Pour la Syrie, en revanche, la situation est plus complexe. Ce sont les combattants kurdes qui ont arrêté les djihadistes français, dont Emily Koenig, ces derniers jours. Or, le Kurdistan est une province autonome, pas un pays. Il n'existe donc pas d'accord avec Paris pour une éventuelle extradition. Mais pour Khaled Issa, représentant du Kurdistan syrien à Paris, si la France veut juger ces djihadistes, cela ne posera pas de problème.
Il n'y aura pas d'objection vis-à-vis des autorités françaises dans le cadre de notre coopération, d'autant plus que la France était le premier État qui a soutenu nos combattants dans la résistance contre les terroristes et notamment dans le combat de Kobané. Donc l'affaire sera réglée entre alliés, il n'y aura pas de problème. La volonté de la France sera respecté dans tous les cas.
Des victimes françaises d'attentats ont demandé que ces djihadistes soient rapatriés pour être jugés ici, mais la France n'a pas encore tranché cette question pour des terroristes dont Paris aurait bien souhaité ne plus jamais entendre parler.
Brice Dugénie, le voyage de Jean-Yves Le Drian en Iran est reporté. Le ministre des Affaires étrangères devait se rendre à Téhéran en fin de semaine, mais le climat est beaucoup trop sensible avec les manifestations qui ont fait officiellement au moins 21 morts. Emmanuel Macron a eu le président Rouhani hier soir au téléphone. Il a exprimé sa préoccupation. Des termes diplomatiques étrangers à Donald Trump, qui est encore allé un peu plus loin sur son réseau favori, Twitter. Il a répondu au dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui a affirmé ce week-end qu'il avait le bouton nucléaire à portée de main sur son bureau. « Moi aussi », répond Trump, « mais il est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que le sien et il fonctionne. Nous voilà rassurés. »
RTL 6h36.
En France, le marché de la voiture d'occasion est en pleine forme.
On a même battu un nouveau record. Plus de 5,5 millions de transactions enregistrées l'an dernier d'après les chiffres du site de vente en ligne Autoscout, chiffre que vous dévoile ce matin RTL. Et on n'a pas peur d'acheter du vieux. Un véhicule vendu sur 6 a plus de 16 ans. Ce goût pour l'occasion pas chère, vous l'avez constaté à Toulouse, Patrick Tégéro.
Eh bien, Natacha vient de s'acheter, on ne peut pas dire s'offrir, une vénérable Clio.
1900 euros. Elle est de 2003. Le moteur a été refait. On a fait un achat conséquent il y a 6 mois puisque nous avons 5 enfants, donc il fallait une grande voiture. Et là, on cherche une petite voiture juste pour aller au travail.
C'est le budget qui commande aussi pour Marie-Hélène. Elle convoite une berline japonaise.
Même si je voulais m'acheter une voiture neuve, je ne pourrais pas. Elle a 141 000 km. Et j'ai eu des voitures à qui je vais faire 400 000 km. Elle a plus de 10 ans, mais quand on a un petit budget, donc si elle n'a pas le GPS, ce n'est pas grave. Par contre, dites-moi que j'ai un moteur qui va faire 400 000 km et je suis heureuse.
Son budget est de 5 000 euros. Jacques vend des voitures d'occasion depuis presque 40 ans. Et il a vu arriver cette nouvelle clientèle.
Le prix moyen était plutôt de 10-13 000 euros. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent alors des voitures essence entre 5-6 000 euros. On va acheter des chaussures pas chères, des vêtements pas chers. Et on fait pareil pour les voitures, on veut les acheter pas chères. Mais par contre, après, quand il y a une panne, là, c'est cher.
Et avec le nouveau contrôle technique, beaucoup plus sévère à partir de mai prochain, les petits prix risquent de revenir de plus en plus chers.
Patrick Tégéro, petit prix et petite vitesse bientôt sur la plupart des routes de France. Le passage aux 80 km/h devrait être annoncé un peu plus tôt que prévu par le gouvernement la semaine prochaine. C'est ce qu'écrivent les Échos. La limitation à 80, ce sera d'ailleurs l'un des sujets au menu du séminaire de rentrée aujourd'hui à l'Élysée. On parlera aussi du dossier délicat de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'Emmanuel Macron a promis de trancher enfin avant la fin du mois. Consigne sera donnée ce matin au ministre de maintenir le rythme des réformes et de serrer les rangs derrière le président.
Et on y reviendra sur RTL juste avant 7h dans les confidentiels de Vincent de Rosier.
Les mentalités ont évolué sur la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes. 6 Français sur 10 sont pour aujourd'hui. D'après un sondage IFOP pour La Croix, c'était 24% en 1990. On finit par ce qui peut ressembler à un casse-tête pour beaucoup d'entre vous. C'est aussi, disons-le, un beau marronnier médiatique, autrement dit un sujet récurrent, que faire de son sapin. Mais là, si on en parle, c'est parce qu'il y a cette initiative très originale dans la métropole nantaise. Patrice Gabart.
Pour se débarrasser de ces 22 sapins de Noël empilés sur le trottoir, l'association des commerçants de la rue Franklin à Nantes, en plein centre-ville, a fait appel hier à Jonathan Gévart et son vélo-remorque, Marie, responsable d'une boutique de prêt-à-porter féminin.
Il s'occupe de tout, on n'a plus rien à faire. Et puis le concept est génial. Monsieur prend 10 euros par sapin. C'est du confort pour nous.
Je fais du transport à vélo toute l'année. Je transporte tout type de marchandises, électroménager, encombrants, déchets verts. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour les personnes qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion ou de véhicule adapté.
Et là, c'est donc l'opération Sapin de Noël jusqu'à fin janvier.
C'est de le mettre sur le palier et moi, je passe l'enlever. Pour eux, c'est ne pas mettre le sapin dans la voiture, ne pas mettre d'épines partout. Puis il y a ceux qui reprennent le travail aussi, qui n'ont pas le temps d'aller emmener leur sapin. C'est vraiment le côté pratique et puis une solution écologique au passage.
Parce que là, votre bilan carbone, il est...
Il est zéro parce que c'est juste les jambes et le vélo.
Autrement dit, un sacré coup de pédale. Pour rejoindre les déchetteries et éco-points les plus proches à travers la métropole nantaise, soit en moyenne 50 km par jour.
Un sacré coup de pédale et puis un sacré vélo aussi.
Oui,
merci Patrice Gabart.
Effectivement, et merci à vous Jérôme Florin. On vous retrouve tout à l'heure à 8h pour le journal aux côtés de Jérôme Chapuis.